Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations et à l'heure actuelle, on fait bien d'avoir ces conversations comme chaque semaine puisque on vit une actualité vraiment bouillonnante hein, avec de grands mouvements de colère dans beaucoup de pays hein, par exemple en Israël mais également en France. Mais nous, ce qui nous intéresse, Daniel, dans le cadre de nos conversations, ce sont les grands mouvements géopolitiques. Et comme on prend toujours avec vous un petit peu de recul, un petit peu de distance avec les événements, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui analyser ensemble ce que devient la situation du monde, Daniel?
Oui, on va le faire, mais vous savez, les événements intérieurs dont vous parlez, Israël, France, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses, et les événements extérieurs sont liés. Mais ça, je dirais, c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir, comment événements intérieurs et extérieurs sont liés, mais on va rester sur la géopolitique. On a commencé la semaine dernière à montrer que le voyage de Xi Jinping à Moscou avait quand même beaucoup de, au fond, quand on lit les communiqués, c'est pas passé grand-chose. On n'a pas parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé de construire un deuxième pipeline, si je me souviens bien. Bon, bref, on a parlé de choses et d'autres, mais on voit bien quand même que 3 jours d'un président chinois en Russie, ça veut dire beaucoup. Et il faut continuer à essayer de comprendre ce que ça veut dire beaucoup. On voit en fait surtout que la Chine est à l'initiative constante de la géopolitique mondiale. L'Asie centrale, c'est le cœur de ce vaste ensemble terrestre que j'appelle de temps en temps le grand continent. C'est là où il y a la Chine, l'Asie, c'est là où il y a l'Europe, c'est là où il y a l'Inde, c'est là où il y a l'Afrique, c'est là où il y a le Moyen-Orient, c'est là où il y a la Russie, c'est là où il y a l'Asie centrale qui est au centre de tout ça. Tous ces pays en stan, Kazakhstan, etc., dont on parle très peu, mais qui sont très importants pour la Chine parce que c'est des pays qui appartenaient à la Russie. Or, comme la Chine et la Russie sont en amitié aujourd'hui, sont des partenaires, il fallait régler la question de cette Asie centrale et ils ont créé, à l'initiative de la Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai, en Chine, pour dire à la Russie, en gros, entendons-nous, ne nous disputons pas autour de l'Asie centrale qui était anciennement Union soviétique et qui est maintenant au fond dans l'orbite chinoise, hein, il faut bien le dire. Et puis on voit cette organisation qui s'ouvre à d'autres pays, l'Inde, le Pakistan, la Turquie, l'Iran. Et puis il est allé là en Russie. Et alors qu'est-ce qui manque? Ben, il manque l'Europe, mais l'Europe, il y va pas pour l'instant, mais c'est l'Europe qui va. En Chine. L'Espagne est allée, l'Allemagne est allée, Macron part la semaine prochaine et il part avec la présidente de la Commission européenne. Oui, il se passe énormément de choses avec l'Europe. Qu'est-ce qui manque encore pour Xi Jinping pour montrer qu'il est à l'initiative globale? Une initiative avec l'Inde. L'Inde, c'est devenu le pays le plus peuplé, qui marche bien, qui a un taux de croissance assez proche de celui de la Chine. Donc on voit apparaître les deux grandes puissances les plus peuplées du monde, alors qui sont pour l'instant pas vraiment en odeur de sainteté, mais qui peuvent quand même trouver des accommodements, et je serais pas étonné qu'on en trouve. Puis vous voyez, il a aussi apaisé les choses au Moyen-Orient avec l'Iran. Donc vous voyez que on voit constamment la Chine à l'initiative.
Alors Daniel, justement, quelle est la signification profonde de toutes ces initiatives dont vous nous parlez?
Ben, si vous voulez, au fond, si on réfléchit bien, quand Xi Jinping a pris le pouvoir, il s'est tourné vers les Américains en disant, nous, on vous propose de renégocier l'ordre mondial. Les Américains ont toujours refusé en disant pas du tout, ce qui a été créé, c'est universel, c'est pas des valeurs occidentales, c'est des valeurs qui sont vraies pour tout le monde. Donc, dialogue de sourds. Et donc, et puis en plus, les Américains se sont mis vraiment à agresser. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont les Chinois quand ils ont été accusés de génocide de Ouïghours. Enfin bref, beaucoup de choses où les Américains se sont mêlés de ce que les Chinois appellent leurs affaires intérieures et qui sont leurs affaires intérieures. Hein. Hong Kong, c'est la Chine. Le Xinjiang, c'est la Chine. Même Taïwan, c'est la Chine. Donc, vous vous mêlez de nos affaires, on peut pas parler. Alors moi, je vais faire autre chose. Je vais vous tourner le dos. Et ce qu'on voit, c'est une Chine qui tourne le dos aux États-Unis et qui est en train d'organiser ce grand continent où les États-Unis ne sont pas présents géographiquement. Ils le sont par l'OTAN, par une présence évidemment, mais ils sont pas partie prenante de cette géographie. La Chine est en train de constituer un ordre mondial à sa mesure, comme elle a envie de le faire, et qui est pour l'instant un ordre mondial alternatif à celui des Américains. Vous voyez, on parlait de fusion des conflits, on avait raison. On disait maintenant il y a deux camps, alors on appelle ça le camp des démocrates et le camp des autocrates, mais en réalité la Chine est en train de construire au fond un deuxième ordre mondial. Il y aura l'ordre mondial autour des Américains, autour de l'OTAN. Voilà, et d'un certain nombre d'accords stratégiques avec les États-Unis, le Japon, les États-Unis, Israël, etc., les États-Unis et l'Europe. Bon, ça sera l'ordre américain, on peut dire. Et puis nous, les Chinois, on va construire un ordre mondial alternatif. Et au fond, tous les constituants de cet ordre mondial sont déjà là. Il y a une ONU, l'équivalent de l'ONU, s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est l'embryon d'un système de règlement des différends entre plusieurs pays. Il va grandir. On a un outil logistique qui s'appelle les routes de la soie. On a une banque qui n'est pas la Banque mondiale, mais qui s'appelle la Banque des investissements d'infrastructures pour financer justement les nouvelles routes de la soie. On est en train d'avoir un système monétaire qui est une alternative au dollar avec le yuan, de plus en plus utilisé dans les échanges, etc. Et puis, on a deux grandes idées, deux grandes principes qu'on met en avant et qui comportent tous le mot initiative. Un truc qui s'appelle GDI, le Global Development Initiative. Alors, si vous lisez la presse et ce que déclarent les Chinois, à chaque fois, ils mettent ça en avant. Nous proposons une nouvelle prospérité au monde. C'est-à-dire que les Chinois reprennent le thème des Américains de 1945. On va construire un ordre mondial autour de la prospérité apportant la paix. Et puis, il a un deuxième principe, une deuxième formule qui est le GSI, le Global Security Initiative, où la Chine dit les pays ont besoin de sécurité et nous, les Chinois, on va vous l'apporter. Vous voyez, quand il est allé voir Ben Salman à Riyad, qu'est-ce qu'a dit Ben Salman? Nous sommes plus en sécurité parce que notre garantie de sécurité des Américains, finalement, on n'y croit plus. Ils sont plus fiables. Et les Chinois ont dit, on ne vient pas vous apporter un complément de sécurité, on va pas remplacer les Américains, mais on va vous apporter de la sécurité, par exemple, en vous faisant reparler avec l'Iran. De même, sur l'explication de la guerre en Ukraine, les Chinois disent toujours, si Poutine a envahi l'Ukraine, c'est parce qu'on vous l'avait obligé, c'est parce que vous l'avez lui avez donné le sentiment qu'il n'était plus en sécurité. Bon, c'est un débat que nous rejetons, bien entendu, mais c'est un peu le thème de Donc vous voyez, si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez déjà aujourd'hui l'embryon d'un ordre mondial alternatif. Et donc la Chine va continuer à essayer de rameuter le plus de pays possible autour de lui en concurrence avec l'autre ordre mondial. Et on va voir, si vous voulez, ces deux ordres mondiaux en concurrence.
Mais alors justement, Daniel, où va-t-on avec cet ordre mondial alternatif mis en place par la Chine?
Écoutez, Henry Kissinger, qui est le maître de tous les géopolitologues, disait à la fin de son livre sur la Chine, que tout le monde devrait lire, hein, c'est un livre de poche, s'appelle On China ou De la Chine, ça existe en français, ça existe dans toutes les langues du monde, j'imagine, où il dit à la fin, je crois que nous, les Occidentaux avec la Chine, on va aller vers une coévolution. Chacun va évoluer de son côté. Donc on est dans cette prévision kissingérienne où on a deux mondes qui vont chacun évoluer un petit peu côte à côte. Et donc la vraie question que vous posez, puis ça peut être notre conclusion d'aujourd'hui, c'est est-ce que ces deux mondes vont s'affronter ou vont finir par trouver un accord? Si on trouve un accord, ça sera autour de la renégociation des institutions mondiales, de l'ONU, peut-être un changement des membres du Conseil de sécurité, un changement dans les règles de fonctionnement de toutes les organisations qui dépendent de l'ONU, où d'ailleurs les Chinois sont présents et ont souvent pris des positions de direction générale dans beaucoup de secteurs de l'ONU. Donc les Chinois ne rejettent pas l'ONU, ils disent c'est autant à nous qu'aux Américains, mais pour l'instant ça fonctionne pas, le Conseil de sécurité, il est bloqué. Donc il y a, y a, y a Il n'y a plus d'ONU, mais on le garde quand même vivant. Parce qu'un jour, les Américains finiront par négocier avec nous. Parce que c'est ça le but ultime des Chinois, renégocier. Et alors le danger, c'est que ça se passe mal et que les deux ordres mondiaux deviennent des camps antagonistes. Et là, on retrouvera, ce qui est annoncé aussi par beaucoup de commentateurs, une nouvelle guerre froide. Mais ça, personne n'en veut, parce que c'est destructeur de la prospérité. Pour ça, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc, ce que construit la Chine aujourd'hui, c'est en attendant des jours meilleurs et en attendant de pouvoir dialoguer vraiment d'égal à égal avec les États-Unis, s'ils veulent bien, les États-Unis, parler avec la Chine.
Et on aura évidemment l'occasion de reparler de tout ça avec vous, Daniel. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et comme d'habitude, excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.
À bientôt.